France Musique. Les grands entretiens, Laurent Villarem.
Je m'appelle Marc-André Dalbavy, je suis compositeur et donc j'écris majoritairement pour les formations symphoniques, les formations de musique de chambre et des opéras actuellement.
Un opéra de 6 heures sur un grand écrivain catholique, le soulier de Satin. Marc-André Dalbavy, est-ce qu'il y a une part de... Quelle est votre part de sacré? Est-ce que vous êtes croyant?
Oui, je suis croyant. L'œuvre de Claudel est une œuvre qui fait référence au catholicisme, ça c'est très clair. Un catholicisme très particulier d'ailleurs. Mais je ne suis pas devenu croyant par le mormonisme, pas du tout. J'ai aucune attache avec cette religion. Je suis né catholique, comme beaucoup de Français. J'ai été baptisé. Et même si je me suis éloigné du catholicisme pendant très très longtemps, j'y suis revenu progressivement pour plein de raisons, qui fait qu'au bout d'un moment, Claudel est devenu un auteur important pour moi.
Vous avez écrit une pièce en 1995 qui est un offertoire. Est-ce que ça a été un point de départ? D'ailleurs, cette œuvre vous a beaucoup ouvert une autre phase de votre musique?
Oui, mais l'offertoire est arrivé après. Je ne vais pas dire une conversion, parce que ça peut être une reconversion. Sans doute, le moment qui a été déterminant est quand j'ai vu pour la première fois le soulier de Satin. Donc, dans les années 87, je crois. J'ai vu les représentations faites par... Vitesse, Antoine Vitesse, Avignon. C'est des représentations d'ailleurs qui m'ont été recommandées par Boulez. C'est Boulez qui m'a dit, va voir, tu vas voir, c'est une œuvre importante.
Il vous a dit pourquoi?
Non, il m'a pas dit pourquoi. Il m'a dit, voilà, le Soulier de Satin est joué, il faut que tu ailles l'écouter. À l'époque, j'étais très proche de Pierre Boulez, donc j'y suis allé. Je crois que j'étais dans les environs. Et ça a été marquant. Alors effectivement, j'ai jamais approfondi ça avec Pierre Boulez. Malgré tout, on peut voir beaucoup d'influences directes de Claudel sur Boulez, ne serait-ce que le dialogue de l'ombre double qui fait référence directement au soulier de Satin, mais même beaucoup d'autres œuvres sont attachées au soulier de Satin.
Vous avez écrit assez peu de pièces sacrées. Par contre, en revanche, vous avez écrit des pièces à la mémoire de Gérard Griset, par exemple. C'est quoi votre rapport à la musique sacrée dans votre propre musique?
Je n'ai jamais écrit de musique sacrée, mais il y a effectivement des références. Alors, vous avez parlé d'Offertoire, qui est la référence au Requiem des morts grégorien, qui d'ailleurs, pour moi, reste un projet ouvert. Je n'ai fait que l'offertoire pour des raisons de commande, mais j'ai toujours gardé en moi l'idée de pouvoir explorer le Requiem grégorien en entier. Mais il y a des pièces, si on prend le cas de Double Jeu, par exemple, qui est une pièce qui a été faite avec une partie d'un orchestre chinois.
En 2003.
Et une autre partie avec un orchestre occidental, symphonique. La référence de la forme de l'œuvre est celle de la messe bouddhique primitive. Donc on voit que je n'ai pas écrit que des pièces totalement profanes. Il y a des dimensions sacrées dans certaines œuvres. Voilà. Donc je n'ai pas un engagement tel que Messiaen l'avait, par exemple, où pratiquement toutes ses œuvres sont des œuvres qui ont à faire avec sa foi. Mais il y a de ci de là des indices qui pourraient laisser penser que effectivement c'est un sujet qui m'anime.
que chez vous, il y a des... Je reviens à la notion d'espace. Parfois, on entend des grandes fanfares, en tout cas de cuivre. C'est comme un Big Bang, et après, c'est un univers qui descend. Est-ce que vous êtes un peu comme Debussy? Vous avez un tropisme vers la descente?
Alors, c'est beaucoup le cas dans le Soulier de Satin.
Oui.
Et c'est lié beaucoup à l'œuvre du Soulier de Satin. Car la courbe de Rodrigue, qui passe de vice-roi à un esclave, est une courbe descendante. C'est-à-dire toute l'évolution de son histoire à lui, qui est une des histoires du Soulier de Satin, il y en a d'autres, hein, il y a plusieurs histoires en parallèle, toute cette idée-là est la déchéance de Rodrigue, l'histoire de la déchéance de Rodrigue.
Et c'est même une des premières fois dans votre œuvre, non? Généralement, vos œuvres se terminent dans la fusion.
Oui, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est une des premières fois. Même si la fin de Charlotte Salomon est une fin assez ironique, d'ailleurs, assez cynique, même, quelque part, n'est pas vraiment dans la fusion.
Marc-André d'Albavy, cela fait 10 ans maintenant que vous consacrez presque exclusivement à l'opéra.
Oui, absolument, oui. J'ai fait une première tentative d'opéra à la fin des années 90 avec Correspondance, qui a été créé à la Filature de Mulhouse avec Guy Lelong et Patrice Samel, qui a été une expérience très importante pour moi. Mais après, il y a eu 10 ans, effectivement, d'éloignement de l'opéra. Et j'y suis revenu avec Gesualdo, donc en 2010, je crois. Ouais.
Gesualdo, c'est un opéra qui a été créé à Zurich en 2010, sur un livret de Richard Millet.
Oui. C'est un opéra qui a été commandé par Franz Welser-Möst. Alors j'ai trouvé la commande tout à fait... Je pensais plus refaire d'opéra d'ailleurs, hein, même si je rêve depuis ma jeunesse de faire des opéras. Ça a peut-être été l'objectif principal depuis que je suis adolescent, c'est d'écrire des opéras.
Vous aviez quel opéra, enfant? Pélias et Mélisande?
Ah non, j'adorais Salomé, j'adorais... J'ai découvert Pélias et Mélisande avec mon professeur d'orchestration, d'ailleurs, Marius Constant.
Mais c'était plus Richard Strauss.
C'était plus Richard Strauss. C'est resté toujours... Alors, c'était Wagner, surtout. Wagner, beaucoup Wagner. Mozart, énormément. Don Juan, Così fan tutte, Les Noces, vraiment. Et puis après, j'ai découvert l'opéra italien, j'ai découvert Verdi, tout ça. Mais ça a été Strauss, oui.
Premiers opéras, donc il y a Correspondance et Mobile. Vous pouvez nous expliquer le cheminement de Mobile?
Mobile, en fait, commence un peu comme le Soulier de Satin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début. Ça commence par les bruits du public. Elle a été écrite, l'œuvre a été écrite pour l'ensemble intercontemporain qui était placé en bas de la salle de la Cité de la Villette. Et autour, au niveau du balcon, derrière le public, il y avait le chœur Accentus, si je me souviens, à l'époque. C'était le chœur Accentus. Et puis, en haut de la salle, vous savez, dans les balcons qui sont tout en haut, il y avait, alors il y a déjà mon côté archange, il y avait les 4 trompettes, ou 2 trompettes et 2 trombones, disposées tout en haut, qui figurent effectivement les anges que l'on retrouve dans l'œuvre de Perrotin qui est censée être jouée et que le public écoute. Et donc tout le processus de Mobile est de commencer par les bruits du public qui sont faits par les chanteurs aussi, donc le public ne sait pas quand l'œuvre démarre, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas tout ça, et le chef d'orchestre qui était David Robertson qui a créé l'œuvre était assis dans le public et au moment où il sort du public et qu'il se met à diriger, en fait rien ne change.
C'est très années 70.
Oui, c'est très dans les explorations des années 70. Vous voyez la tradition. Ma tradition peut être très récente aussi. Et donc ça commence comme ça, vous voyez. Donc on n'est pas vraiment dans de l'opéra, on n'est pas vraiment dans du théâtre, on est plutôt dans le fait d'intégrer le cadre du concert dans l'œuvre, vous voyez. Toujours l'idée d'in situ. Donc on est là-dedans. Le vrai premier opéra, c'est Correspondance. Et donc ça, c'est les années fin 1999, je crois, 2000. Et là, je pars en fait d'une volonté de contester mon père musical, d'une certaine manière, qui serait Ligeti. Et Ligeti, lui, a toujours pensé que l'œuvre était autonome du lieu d'accueil de l'œuvre. Et donc, j'ai voulu lui prouver que non.
Comment vous avez fait ça ?
Eh bien, je suis parti de son œuvre Aventures et Nouvelles Aventures, où il n'y a pas de texte, où ce sont juste des affects qui sont composés à travers une trame musicale. Il y a trois chanteurs, et donc il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de fiction. Ça n'est pas un opéra, c'est du théâtre musical, et on ne sait pas ce qui s'y passe, puisque c'est des affects qui sont juxtaposés et combinés de façon à ne produire aucune fiction.
Je comprends pourquoi vous avez fait peur à Udgal, là.
Oui, il s'est dit avec ça, on va pas aller loin. Et donc, j'ai pris ces deux œuvres et j'ai fait une troisième œuvre derrière, qui s'appelle Correspondance. Donc, on joue Aventure, Nouvelles Aventures, et après, on joue Correspondance. Et dans Correspondance, je pars de tous les motifs musicaux chantés dans Aventure, Nouvelles Aventures, et progressivement, j'y intègre des phonèmes. Puis
il y a une phrase qui se forme, c'est ça ?
Et progressivement, des phrases se forment, et progressivement, une histoire émerge. Et on sait, ce qui s'est passé dans les œuvres de Ligeti, qui pourtant semblent être autonomes du lieu d'accueil dans lequel elles sont. Et j'ai écrit à Ligeti, je lui ai dit, est-ce que vous êtes d'accord que je fasse ça ?
Et il l'a vu ?
Et il l'a pas vu, mais il m'a renvoyé une note en me disant qu'il était tout à fait d'accord. Mais il a pas désiré voir Correspondance. Donc ça, c'est le premier opéra.
France Musique, les grands entretiens de Marc-André Dalbavy.
Marc-André Dalbavy, vous avez fait paraître un livre passionnant d'entretien, c'était en 2005 pour Présence, je crois, avec Guy Lelong, justement, et page 123, vous êtes prêts ? Vous disiez, c'est bien pourquoi j'ai toujours refusé de faire un opéra sur un livret préalable. Vous avez changé ?
Mais non, parce que aucun de mes livrets n'est préalable.
Si peut-être le soulier de satin ?
Non, ah oui, mais pas le livret, la pièce de théâtre.
Bon, vous jouez sur les mots, non ?
Oui, mais enfin le livret est très... Enfin,
bien sûr, il est très modifié, oui.
Très modifié. Même l'ordonnancement des scènes et tout ça, enfin il y a beaucoup de changements. Donc effectivement, en tout cas à l'époque, j'étais très radical là-dedans, dans l'idée de vouloir toujours travailler avec un auteur vivant. Et j'ai toujours fait ça depuis, que ce soit avec Richard Millet. Alors j'ai toujours voulu écrire avec des auteurs dont la musique est une des passions. C'est le cas de Richard Millet. Pour moi, c'était important, c'est le cas de Guy Lelong, c'était important de travailler avec des auteurs qui ont une connaissance intime de la musique, parce que c'est très difficile de travailler avec quelqu'un qui ne connaît pas la musique lorsqu'on veut faire une œuvre de théâtre musical. C'est très difficile parce que on a besoin de travailler sur des structures de phrases qui le permettent. On peut pas chanter n'importe quelle phrase, on peut pas chanter n'importe quelle position de mots, n'importe quelle syntaxe. Il y a des syntaxes qui fait que le chant n'arrive pas à porter parce que ne serait-ce les plosifs sont à des mauvais endroits, l'accent est mal placé. Enfin, surtout en français, qui est une langue qui a besoin d'être très travaillée.
Tous vos opéras sont en français d'ailleurs.
Oui,
il y a aussi en allemand.
Oui, Charlotte Salomon est mi-français, mi-allemand, mais c'est une langue qui est difficile à mettre en musique. Et pour moi, je voulais toujours travailler avec quelqu'un qui était soit un mélomane, soit un musicien, soit quelqu'un qui a, pour lequel la musique est centrale.
Il était temps que j'arrive. Ah, qu'il est doux de dormir avec moi. Quel silence. À peine un faible cri par instant. L'heure de la mère de lait est à nous. Si l'on me voit si blanche, c'est parce que c'est moi, minuit. Le lac de lait, les eaux. Je touche ceux qui pleurent avec des mains ineffables.
Le soulier de satin est parcouru de musique. D'ailleurs, c'est un opéra, on peut dire, d'une certaine manière. C'est un théâtre qui évolue plus vers l'opéra que vers les formes théâtrales de l'époque. D'abord, la phrase est longue. Et elle est longue, pourquoi ? Parce que elle veut amener l'acteur de théâtre à des expressions à bout de souffle, très souvent. On va jusqu'au bout du souffle. Et on est vraiment dans le chant. Et le fait qu'elle soit très longue, elle évite cette syntaxe très simple du sujet, verbe, complément, qui est une syntaxe qu'on trouve beaucoup dans le dialogue, et le dialogue de théâtre, pour créer une sorte de flux de parole. Et quand vous écoutez le souhait de Satan dans la version originelle, celle de Claudel, eh bien, la parole est presque plus importante. Vous voyez que même si le texte est fondamental, mais la parole, ce flux de parole en fait presque un flux musical, presque un flux chanté. Et d'ailleurs, il faut un travail prosodique quasiment de musicien pour un acteur de théâtre pour pouvoir énoncer le vers claudélien. Et alors, les rapports avec la musique sont très importants. Il y a déjà un personnage qui s'appelle Dona Musique, qui va unifier tous les peuples dans la musique, en la musique, au cœur même de... du soulier de satin. Puisque...
C'est vous, Dona Musique, d'ailleurs ? Parce que vous êtes...
Je ne sais pas. J'ai pas réfléchi à cette dimension psychanalytique de l'œuvre ou psychologique, mais en tout cas, Dona Musique est essentielle et elle est au centre de l'œuvre de Claudel. Et il y a toujours un orchestre qui est derrière les coulisses, il le dit au début, Claudel. Parce qu'il est très influencé par le kabuki. Il est très influencé par le théâtre no, par tout le théâtre asiatique, qui est un théâtre musical, en fait. Et donc, il veut de la musique en permanence. Voilà.
Ce qu'il faut savoir pour les futurs auditeurs, c'est que ça chante. Votre opéra chante pour un opéra contemporain, c'est très rare.
Oui, ça chante parce que...
Ça respecte, en tout cas, plus ou moins la voix naturelle.
Mais c'est pas forcément le respect, c'est simplement que, voilà, j'aime la voix chantée et j'aime la voix lyrique. Mais il y a toutes les voix possibles dans
voilà,
le
c'est ça, c'est encore votre côté omnivore. Il y a le parler, le chanter.
Exactement. Il y a le parler, le chanter, il y a le parler chanté, il y a le sprechgesang, il y a le récitatif, qui est un chanté quasiment parlé. Mais effectivement, il y a toutes les dimensions de la parole qui va jusqu'au moment lyrique, et les moments lyriques sont à des moments très précis. Très souvent des moments qui correspondent à des phases où, justement, les mots ne sont plus assez forts pour décrire ce qui se passe à l'intérieur des personnages. Et c'est là où on bascule dans le lyrisme. Parce que pour moi, j'ai voulu intégrer l'écriture lyrique aussi, évidemment.
Vous n'avez pas voulu d'une voix instrumentale ?
Absolument. J'ai vraiment voulu explorer cette dimension. Ce qui m'intéresse dans l'opéra, c'est d'explorer l'opéra. C'est pas de faire du théâtre et de la musique. C'est vraiment explorer le genre de l'opéra, comme j'ai voulu explorer le genre du concerto, etc. Et donc de prendre le genre tel qu'il est, et tel qu'il m'a toujours fasciné.
Un des aspects les plus réussis du soulier de satin, c'est ce passage du parler au chanter. Parfois, on s'en rend même pas compte.
Oui, mais c'est le but du jeu. C'est-à-dire, le moment où le lyrisme advient, c'est un moment où les tensions entre les personnages font basculer dans le lyrisme. En fait, ils parlent tout le temps.
Debussy, dans Pélias, faisait... plus ou moins la même chose.
Ah, mais je pense qu'il est fondateur là-dedans. Il a voulu effectivement que le chant soit une sorte d'extension de la voix parlée et du français parlé. C'est dû, à mon avis, au français. Hein. Je pense qu'on a avec cette langue une dimension qui est particulière et qui a permis assez facilement à Debussy d'explorer un chant qui est quasiment parlé, qui est une sorte d'excroissance de la langue française.
Même Gainsbourg, d'ailleurs, en chanson pop.
Alors peut-être Gainsbourg, je connais moins, mais oui, mais de toute façon, les chanteurs, les chansonniers, aussi beaucoup entre le parler et le chanter. Mais dans Debussy, par contre, il y a beaucoup moins de lyrisme que chez moi. C'est là où il m'a beaucoup moins influencé. Je suis beaucoup plus là vers des opéras comme ceux de Strauss, où le lyrisme peut être extrêmement puissant, que vers Debussy, où il y a un lyrisme très contenu.
Vous avez 60 ans, vous allez avoir 60 ans cette année?
J'ai 60 ans.
Vous avez 60 ans.
Voilà.
Donc est-ce que vous-même vous sentez que vous entrez dans un nouveau passage?
Non, je dois dire que je suis dans une continuité terrifiante.
Et d'ailleurs, après le soulier de satin, quel est votre... Vous allez composer un opéra de 15 heures, qu'est-ce qui va se passer là?
Oui. Non, là, je voulais absolument travailler sur un temps long pour le soulier de satin. Mais l'opéra qui va suivre est un opéra de dimension beaucoup plus conventionnelle.
Donc c'est encore un opéra?
Oui.
Vous n'avez pas le droit de le dire?
Si, si, je peux le dire. Je vais écrire un opéra pour le Staatsoper de Berlin sur la fin de vie de... Enfin, pas la fin de vie, mais la dernière partie de la vie de Coco Chanel.
Oh.
Donc vous voyez, c'est autre chose.
J'ai une réaction de fan, excusez-moi.
Ouais. mais c'est très intéressant parce que justement le
personnage
moment,
trouble.
Voilà, personnage trouble. Et donc un personnage où l'opéra peut très bien se loger dans cette contradiction.
Malgré tout, est-ce que le soulier de satin c'est un accomplissement pour vous? Parce que malgré tout, quand on réfléchit, j'espère que ces grands entretiens ont montré que finalement cette pièce de Claudel, cet opéra d'après Claudel, un petit peu synthétiser toutes vos obsessions?
Oui, absolument.
L'idée
je peux le dire, tout moi est dans le soulier de satin. La longueur l'a obligé à aller chercher très loin en moi la possibilité de pouvoir créer sur une si longue durée. Donc comme Claudel, d'une certaine manière, j'y ai tout mis.
Tout le monde d'Albavy est présent?
Tout le monde d'Albavy est présent dans le soulier de satin, ce qui donnera peut-être de l'intérêt pour moi à faire une nouvelle œuvre.
Après les représentations du soulier de satin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous retournez dans votre vigne? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, ben là je vais surtout me reposer, je crois que j'en ai besoin. Et il y a le nouvel opéra qui évidemment n'attend pas. Et je vais devoir
m'y remettre
assez vite.
Dites-moi.
Alors les dates sont pour 2024, vous voyez, c'est demain.
Est-ce qu'on se boit ce petit verre de vin? Allez,
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 si
c'est
vous
parti.
Voulez.
Allez. En tout cas, ça
a accompagné tout. Non,
le... Oui, c'est vrai que ça sent bien la cerise. Alors, c'est votre Marc-André d'Albavy, c'est votre vin. Je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub. Ça s'appelle les Joales. Bon, voilà.
Voilà.
En tout cas, ça a embaumé tout notre entretien. C'était très agréable. En tout cas, merci beaucoup, Marc-André d'Albavy.
Merci à vous.
Peut-être on peut continuer à parler.
Santé.
Allez, on se clique nos verres bizarres. Hop là. Et ben là, ça passe très bien. Ah, c'est nickel.
Ah oui, c'est très
c'est...
bon.
Ouais. Ouais, il est très très bon. Il est fort, hein, 14,5.
14,5, mais oui, vous savez, c'est les changements climatiques.
Oui, bientôt vous allez... tout le monde va faire du Porto.
Voilà, c'est ça. Très, oui, très joli vin, le Porto.
C'est ainsi que se terminent les grands entretiens de Marc-André d'Albavy. Prise de son, Pierre Henry. Mixage, Valérie Lavalard. Attaché de production Flora Sternadel, une émission réalisée par Lionel Quentin. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur le site francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.